La prohibition aujourd'hui, elle n'a pas démontré son efficacité, bien au contraire. On est dans l'impasse. Comme c'est un produit illicite, comment vous voulez faire une bonne politique de prévention sur un produit qui est interdit? Comment vous voulez savoir ce qui est vendu, la qualité de ce qui est vendu? Bien sûr, je trouve que c'est pas normal de se droguer. Mais c'est le constat. Comment cet argent qui va dans des réseaux mafieux peut bénéficier à la société? Il n'y a pas de bonne solution. La moins mauvaise solution, c'est de légaliser.
Voilà, non, la d'accord. moins mauvaise des solutions, c'est de légaliser. Alors, vous voulez quelques chiffres? Chaque année, l'État français dépense 570 millions d'euros contre le cannabis. Vous prenez un billet de 10 euros, 7 euros vont à la répression, 2 à la justice, 1 euro à la prévention, les soins et la recherche. Le chiffre d'affaires du cannabis, alors là, c'est à la louche, hein, c'est à travers les saisies, les données police et douane, 1,2 milliard d'euros par an. Et ensuite, ce qu'on appelle le bénéfice, il n'y a pas de taxe derrière, c'est de l'ordre du milliard d'euros.
Mais qui, résultat net.
Ouais, mais qui reste essentiellement aux mains des réseaux, des mafieux, et pas des petites mains, ceux qui sont en bas. Donc aujourd'hui, 45% des Français se disent pour la légalisation du cannabis, 18 millions de Français disent avoir déjà consommé du cannabis et 1,5 million de Français en consomment régulièrement. C'est un produit, on le rappelle, illicite. Il génère des trafics qui provoquent des drames, des morts, des règlements de compte, qui empoisonnent la vie au quotidien. Et là, que ce soit Kaouter Ben Mohamed à Marseille ou Elina Dumont en tant qu'intervenante sociale, le savent précisément. Donc, est-ce que ces sénateurs ont raison de remettre les pieds dans le plat une fois de plus? En disant, on débat, il y a une proposition de loi et soyons courageux.
Exactement.
Faisons comme par exemple en Uruguay, au Canada, dans une quinzaine d'États américains où on autorise le cannabis, où l'État prend des taxes, oui ou non,
la
pour
Suisse.
Ou contre. À vous d'en parler avec les GG au 32-16. Allez, go, Kaouter, pour ou contre?
Complètement pour, à 100%. Moi, je ne fume pas, je n'ai jamais fumé, je sais que c'est une drogue. Et au-delà des règlements de compte, des morts et de tous les drames qu'il y a autour, il y a aussi des effets physiologique sur les personnes qui fument, en particulier quand elles fument de plus en plus jeunes, et elles fument de plus en plus jeunes. Donc moi, quand sur la répartition des 10 euros, tu me dis qu'il y a 7 euros qui vont à la police, 2 à la justice et 1 à la prévention et au soin, je suis assez inquiète, parce que moi je vois des enfants aujourd'hui, et je ne le cautionne pas par contre, hein, mais qui se le procurent quand même, qui ont 14 ans, qui font leur joint comme ça dans la rue et qui fument toute la journée. Je considère qu'ils ont plus de cerveau, que toutes les neurones elles sont cramées. Donc ça peut paraître antagoniste parce que je dis je suis pour.
Oui,
non, parce qu'ils se le procurent quand même.
Je suis pour que nos gamins de 14 ans se crament les neurones, mais légalement.
Non. Je suis pour que dans la répartition, il n'y ait pas qu'un euro dans la prévention et dans les soins, et qu'on fasse de la vraie prévention dans les écoles, dès le collège. Mon fils, je l'avais raconté ici, en sixième, mon oncle est mort à la rentrée scolaire, un de mes oncles. Donc je rentre et je le laisse chez une amie. Il y a deux grands de troisième qui l'ont chopé par l'oreille. Pourtant, il est dans un très bon établissement. J'ai changé la carte scolaire, etc. Ils l'ont pris par l'oreille, ils lui ont dit, oh, viens là, tu as une bonne tête, viens nous vendre des sachets à 50 euros, c'est comme à la Castellane, tu vas te faire du fric. Donc j'ai failli démonter toute l'école, et en particulier ces dominos. Donc ça existe de partout dans tous les milieux sociaux.
Mais dans ce cas-là, est-ce que l'État doit abdiquer?
Non,
c'est quoi
l'État
d'après,
ne doit pas abdiquer.
Attends,
je dis qu'en fait...
Non,
j'ai pas fini. En fait, il y a une manne financière qui est énorme. Il y a des taxes qui ne sont pas payées, qui pourraient être une source de revenus pour l'État. Les gens continueront à fumer. Quand on me dit c'est la première étape, après ça sera des drogues plus dures, je ne suis pas d'accord, parce que les gens qui fument du shit ne prennent pas de la coque. C'est deux consommations qui sont différentes.
Là, ma
c'est
cocotte,
tout.
Je peux te dire autre chose.
Oui,
moi,
mais toi, mais pas tout le monde. Je suis désolée. Bon. C'est, voilà.
Alors, Kaouter est pour la légalisation. Au moins, on prendra des taxes
financière.
Et on fera de la prévention.
Alors, moi, je vais être honnête.
Pour ou contre
Je suis très mitigée. Ça... Franchement, j'ai envie de dire oui pour arrêter toutes ces guerres de territoire, qu'il y a des gamins qui meurent pour une barrette de shit. Bien sûr que j'ai envie de dire oui. Mais maintenant, moi, je te cache pas, tu le connais, tu le sais, Alain, suffisamment. Moi, maintenant, je parle même plus du shit, moi, je suis au crack, moi. Tu vois? Ouais. Donc et je peux t'assurer, tu sais très bien où je travaille. Je travaille à Lille. À Lille, c'est le bordel avec le crack. Même en Bretagne, il y en a. Porte d'Aubervilliers,
Colline
porte de
crack,
la Villette, hein. Porte de Pantin. Et ils fument de tout, du shit, du crack, de l'héroïne. Il y a de tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai. Par contre, avec l'argent, là, il faut aller à fond dans la prévention. si par les taxes.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait ce sénateur, comme c'est un produit qui est illégal, tu ne peux pas faire de prévention et de campagne de prévention
voilà,
pour
ce
un
que j'ai
produit
toujours, c'est pour ça.
Illégal.
Bon. Par contre, au
alors
Maroc,
c'est vrai qu'on en parle ouvertement.
Et en même temps, au Maroc, je l'ai noté parce qu'ils ont autorisé 3 provinces à cultiver du cannabis après avoir légalisé la culture de l'herbe dans un but médical et industriel. Donc eux,
les
c'est
Pays-Bas
pas
des...
Non mais d'accord, mais je voulais parler du Maroc parce que j'aime bien le Maroc. C'est... Et comment dire, et eux, on peut pas les traiter de mafieux puisque c'est autorisé.
Non mais
et on sait très bien qu'en France, quand même,
sur le territoire européen, il y a des pays qui l'ont légalisé et des boutiques, ça paye des taxes, etc.
Ah oui,
c'est une économie.
Ce
n'est pas qu'un problème politique, c'est un problème politique et économique et alors, hyper important.
D'après, attends, juste oui, un truc. Après, je me tais. D'après les études,
compliqué. Hein. Bah, non mais
d'après les études,
allez au bar.
Tous les pays où le cannabis a été légalisé. C'est pas pour ça que les gens qui n'en prenaient pas se sont mis à en prendre. Ça, c'est une vraie étude.
Alors, Stéphane Manigault, pour ou contre ?
Contre. Moi, je suis farouchement contre. C'est quoi l'étape d'après ? La cocaïne ? Bah, la cocaïne, ça te désinhibe, ça te donne plus d'énergie.
Chez les députés,
t'as les
ils en prennent pas mal, hein, je te le dis, moi.
T'es plus joyeux, ça te donne du pêche. Bah oui, pourquoi ? Attends, je termine. Je t'ai pas coupé. Laisse-moi terminer. C'est quoi l'étape d'après ? Et puis, l'argument qui consiste à dire c'est parce que c'est illicite que les jeunes en prennent. Le protoxyde d'azote, tu le trouves sur Amazon. Ils se shootent la gueule avec du protoxyde d'azote. Le protoxyde d'azote, c'est ce fameux gaz hilarant qui est en vente libre. Et nos gamins, aujourd'hui, sont en train de se défoncer au protoxyde d'azote. Donc nous expliquer que parce que c'est illicite, le cannabis, donc nos jeunes y vont, tu trouves du protoxyde d'azote qui grille la santé de nos mômes. Il y a des mômes qui meurent sur ce sujet. Et pourtant, c'est en vente libre. Donc le sujet qui consiste à dire, parce qu'on va le rendre licite, ce sera, on va lutter contre la consommation,
c'est
faux et archi faux. La Suisse a tranché comme ils savent faire, c'est-à-dire de façon très neutre, tu l'as en distribution libre, sous soit médicament, traitement, soit comme de l'encens. C'est-à-dire que tu parfumes avec voilà, et t'as le droit d'avoir des plantes de cannabis. Mais t'as pas le droit de consommer.
Mais reconnais que la répression aujourd'hui, c'est un échec.
Excuse-moi.
C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à endiguer, si tu veux, ce trafic.
C'est la plus grande mondial. Des drogues.
Oui, non,
la plus grande des drogues.
Et après quand tu légalises, attends,
qui est
légalisé. Quand tu légalises, nous trois, on a vécu cette économie souterraine. Quand tu enlèves cette économie souterraine à ce milliard d'eux que représente le chiffre d'affaires aujourd'hui. Pour vous donner un ratio, McDonald's, le chiffre d'affaires de McDonald's en France, c'est 4 milliards. T'imagines qu'à 1 milliard d'eux, ce que ça représente comme économie?
Oui.
C'est colossal. Donc à partir du moment où tu légalises quelque chose, tu enlèves
du
revenu à des dealers.
Pas du tout.
C'est quoi l'étape d'après? Tu crois que le gamin qui a voulu prendre ton fils comme revendeur à 50 balles la petite barrette de shit, il va lui donner quoi? C'est légal, mais tu peux l'acheter partout. Il va lui donner quoi demain? Un sac de crack, un sac de cocaïne?
Non, c'est pas même.
C'est des sujets sérieux de santé publique.
Tout à fait.
Et tout ce qui est toxique pour nos gamins, ben moi je suis farouchement opposé.
Il y a des pays au Canada,
on peut pas s'opposer à un vaccin qui soigne et d'un autre côté dire le shit, il faut le légaliser, c'est pas possible.
Puis on est inaudible. Encore suite au 32-16.
Je te dis que le Canada, les Pays-Bas l'ont légalisé et il n'y a pas une consommation qui a explosé de manière exponentielle de la part des locaux. Il y a des Franciliens, il y a des personnes qui vont se fournir là-bas.
Nous n'avons pas la même population.
Oui, mais excuse-moi, c'est une économie qui existe et tu vas donner un statut à ces jeunes qui sont aujourd'hui des trafiquants. Parce que je ne parle pas du petit revendeur à la sauvette là d'une barrette de shit au collège qui se fait plaisir pour se donner un peu des frayeurs. Je te parle des têtes de réseau qui gagnent des millions, qui sont à la tête de ça et qui sont à l'abri
ils
à Dubaï et ailleurs.
Au Maroc, ceux-là, hein, je te le dis moi.
Au Maroc, à Dubaï, aussi, ouais, etc.
Ouais. Eh ben eux, à Dubaï.
C'est des chefs d'entreprise du coup qui deviennent entre guillemets respectables, qui ont une activité économique. On leur prend tant de pourcents de taxes, de TVA, de ci, de ça, qu'on envoie justement dans la prévention, dans l'éducation, dans la rénovation des écoles, parce que tu choisis où tu mets l'argent en fait. Tu vois, il y a un copain qui me dit un jour, il me dit Kaouter, tu es la seule qui peut le faire, tu es la seule qui peut monter dans les quartiers noirs. Allez voir les gars, ils leur disent bon les gars,
vous prenez de l'argent,
donnez-moi 10%, moi il faut que je rénove les écoles.
Mais si tu penses qu'en légalisant un tarif sur le gramme du shit, c'est lutter contre ce milliard d'eux, c'est faux.
L'économie, c'est normal,
elle va toujours fonctionner. La cigarette, le prix, il est fixé en France, du paquet de cigarettes.
Oui.
Et pourtant,
excuse-moi,
combien de personnes reviennent de Dubaï et compagnie avec des cartouches et des cartouches.
Oui, c'est pareil pour l'alcool. C'est la plus grande dépendance, l'alcool. C'est en vente libre de partout. On te fait la publicité partout et tu deviens dépendant et c'est extrêmement compliqué. compliqué quand tu deviens alcoolique.
Elina Dumont, et puis on écoute Franck au 32-16.
L'intérêt qu'il peut y avoir aussi, c'est que les consommateurs de, on va dire, de cannabis seront, parce qu'il faudra que ce soit cadré évidemment, ils fumeront de la très bonne qualité. Exactement. Ça, c'est très, parce que moi, combien de fois, moi, je fume pas. Hein. Enfin, je fume plus.
Bah, qu'est-ce bonne que j'ai qualité dire ou mauvaise qualité, mais, ça dérive énormément. Hein.
Combien de fois les mecs ils disent, putain, le salaud, il m'a filé de la merde, je veux le buter. Et attendez, je voudrais vous dire un truc. Alors ça, j'y tiens. Je sais pas dans quel journal vous avez eu ça.
Dans l'IB.
Vous savez, moi, je... bon,
vas-y.
Gérald Darmanin, farouchement opposé, fait de la lutte contre les trafics une priorité de son action. Oui. Je dis tout haut et tout fort, c'est faux, c'est un menteur.
Exactement.
C'est son deuxième mandat. Moi, je me bats depuis 4 ans sur le trafic de drogue.
Le crack, entre autres.
On a tout fait, on lui a envoyé des lettres, on lui a demandé de venir. Rien, rien.
Oui, mais lui, quand il dit c'est sa priorité, c'est les forces de police qui sont sur le terrain et qui le représentent là où tu es. Mais cela dit, c'est un bon exemple ce qu'elle prend d'ailleurs, Elina, parce que regarde, la colline du crack, on voit bien qu'à chaque fois, le problème, il est déplacé. Les riverains, même au cœur de l'été, l'autre fois, je les voyais, il y avait encore un reportage où il dit ça continue de se battre. Le soir, l'été comme l'hiver, on est confronté à la même chose.
C'est flippant quand tu passes là-bas.
Ça ne veut pas dire qu'il faut légaliser le crack. C'est pas ce que je dis. On voit bien que la lutte contre les stupéfiants, il faut trouver une autre approche que l'approche
la mairie de Paris Stéphane. Crée des salles de shoot. En fait, t'imagines le monde dans lequel on vit. Stéphane. C'est-à-dire qu'on considère que les gens, on va les cacher. Hein,
non, c'est pas ça. Les salles de shoot, c'est pour essayer de prendre en charge ceux qui sont malades, ceux qui viennent. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a des infirmières. Et on essaie de les récupérer et ensuite de les mettre en centre de soins. Attends, Elina, parce qu'on a Franck qui attend au 32-16, qui est avec nous, qui est dans le Lot. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous soutenez cette proposition des sénateurs socialistes?
Oui, tout à fait. Donc, je me présente, je suis Franck, j'ai 53 ans et je suis directeur de structure touristique depuis 30 ans.
Oui.
Donc, je suis confronté à employer des salariés jeunes.
Oui.
Et confronté au problème de la drogue depuis toutes ces années, puisque dans ces milieux-là, il y a beaucoup de drogue qui circule.
Oui.
En particulier dans la restauration, tout ça. Ah, oui. Et donc, moi, j'ai vu un peu les dégâts que ça pouvait provoquer. et j'ai vu aussi les bienfaits, puisque je suis un fan du Canada. Je vais souvent au Canada, j'ai beaucoup d'amis au Québec. Et j'ai vu le bienfait de l'arrivée, de la légalisation du cannabis au Québec. J'y étais quand ça s'est ouvert. J'ai vu les fuites d'attente à Montréal. J'ai vu les Apple Store du cannabis, comme je les appelle, puisque c'est des boutiques impeccables où tout Starbucks était présenté de façon incroyable. Et puis quand on voit le résultat, 4 ans après, parce que c'était en 2018, d'après le gouvernement québécois, il n'y a pas plus de jeunes qui fument qu'avant. Il y en a moins qu'en France en termes de statistiques.
Ouais.
Ils fument de la qualité. Moi, mes amis qui sont là-bas, qui ont à peu près mon âge, commandent sur Internet, ils reçoivent chez eux, ils choisissent exactement la dose de ce qu'ils veulent de THC à l'intérieur par rapport à... Voilà, c'est très qualitatif. Ça les a pas mis à fumer plus qu'avant, pas du tout.
On ne peut pas laisser passer une promotion de drogue.
Mais c'est pas une promotion, c'est pas
une drogue. Qu'elle soit de qualité ou de mauvaise qualité, reste une drogue.
Oui, mais le tabac et l'alcool, il y a une promo. Excuse-moi.
Exactement.
Sauf qu'on met boire de l'alcool avec modération, c'est tout.
Allez-y, Franck.
On
vend et on prend des taxes dessus.
C'est ça.
Oui,
c'est
mais en France, un quart de la population se drogue tous les jours avec des médicaments en vente libre.
Exact.
Prescrits par les médecins. Ils roulent dans des états seconds parce qu'ils sont sous tranxène ou valium.
C'est vrai.
Au Canada, vous n'avez pas le droit de rouler quand vous avez pris du cannabis. Par contre, eux, ils savent détecter si vous l'avez pris. Je crois que vous avez le droit de rouler 3 ou 4 heures après avoir fumé quelque chose. En France, un jeune, il se fait arrêter aujourd'hui. Au bout de 4 ou 5 jours, il est encore embêté parce qu'il a des traces d'avoir fumé. C'est-à-dire qu'en France, on n'est pas capable.
Il y a des gens suicidés après avoir fumé du cannabis.
Mais l'alcool aussi.
Je me souviens, on était sur notre terrain de foot. On était, heureusement que tout le quartier, on était sur le terrain de foot en train de regarder le match. On a, un de nos gars qui s'est allumé un joint. Il a ouvert le gaz, il a joué de la guitare, il a soufflé l'immeuble.
C'est un état dépressif, ça n'avait rien à voir avec le joint.
Tu rajoutes à une détresse des moyens d'aller encore plus loin dans cette détresse. Moi, je suis désolé, les gens ne peuvent pas leur mettre la tête dans l'eau.
Je vais avec la fille d'un copain journaliste.
Oui, il a raison.
Je pars en camping.
On trouve facilement au bout de la rue.
Exactement. Et je découvre une jeune femme, directrice marketing dans une grande boîte que je ne citerai pas, 34 ans, qui est sportive, qui a plein de qualités. Et son fils ne veut pas venir avec nous au camping. Et moi, ça m'étonne, tu vois. Donc, on part, mon fils, elle et moi. Fort heureusement, son copain nous a rejoints parce que moi, je ne savais pas qui j'avais affaire. Non, mais elle est... Elle a bu 6 bouteilles de vin dans la voiture. J'ai conduit de Marseille à l'Ardèche. 6 bouteilles de vin devant mon fils. Elle est partie complète. Et là, j'appelle ses parents.
6 bouteilles, tu peux pas.
Et je découvre que cette jeune femme est alcoolique. Et donc, bon, complètement alcoolisée, je peux rien lui dire à part la calmer, monter la tente à 1h du matin en Ardèche, les sangliers. Enfin, tu vois, je sais pas faire ça. Donc, tu vois, grande immersion pour moi. Et le lendemain, quand on discute, elle me dit oui, Kauter. Je dépends de l'alcool, sauf qu'il y en a partout. Quand je vais faire mes courses, il y en a partout. Il y a de la pub partout. Et je rends hommage à une jeune femme qui s'appelle Nuncia, que je suis sur les réseaux sociaux, qui fait des maraudes et tout, etc. Elle a décidé depuis 18 mois d'arrêter de boire. C'est le combat de sa vie. C'est difficile. Oui. Elle est prise en charge.
Mais
elle
rentre. Justement, est-ce qu'il faut pour autant créer d'autres dépendances?
Excuse-moi. Alors, la dépendance où toi, tu fais ton fric parce que tu es restaurateur, tu gagnes de l'argent, on paye des taxes, c'est bon. Mais d'autres dépendances, non. Je te l'ai déjà dit, je le dis tous les jours ici.
On peut monter que des associations en France aussi, hein. C'est plus simple, effectivement.
C'est la même règle pour toutes les dépendances. Soit c'est, tu vends des cigarettes, tu vends de l'alcool.
J'en vends pas.
Et l'alcool, je considère vraiment que c'est la dépendance la plus dévastatrice.
Merci de votre témoignage. Franck, avec l'exemple canadien, dans un instant, Laurent, il nous appelle de Tassin-la-Demi-Lune, c'est du côté du Rhône. Il est cuisinier, il est contre la légalisation. En plus, il a un exemple personnel.
Ah bah oui,
son fils
dans la restauration,
est tombé dedans quand il était au lycée, dans le cannabis. Et il va nous raconter ce témoignage, son exemple. À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les Grandes Gueules. Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les GG, les Grandes Gueules sur RMC, RMC Story, les Grandes Gueules en direct tous les jours, en plein mois d'août, nous sommes là parce que la vie ne s'arrête pas, la société continue d'avancer avec ses défauts, ses qualités, qu'il y a toujours matière à discuter entre nous dans les GG, avec vous bien sûr, avec Elina Dumont, l'intervenante sociale, avec son franc-parler, le franc-parler de Kauter Ben Mohamed, présidente de l'association Marseille en colère, le franc-parler de Stéphane Manigold, aussi restaurateur à Paris, et la franchise aussi de Laurent, qui nous appelle au 32-16. Bonjour Laurent.
Bonjour Laurent.
Bienvenue Laurent, bienvenue.
Bonjour.
Alors,
bonjour à tous.
Est-ce que vous êtes pour ou contre la légalisation du cannabis comme le proposent les sénateurs alors, socialistes?
Moi je suis tout à fait contre, puisque là je vais témoigner pour ma famille, quoi.
Oui.
Et pour les familles qui ont été détruites par ça.
Oui.
Parce que ça détruit le milieu familial. Mon fils, il était dans un lycée, s'est protégé, un milieu sportif, puisqu'il était en sport-études. Mmh. Il était dans la natation et il s'est retrouvé en contact avec des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs et qui lui ont offert de ce milieu-là, quoi, de fumer. Et puis il est tombé dedans, il fumait de plus en plus et puis nous on s'en est pas rendu compte tout de suite. Et puis petit à petit, il a fait du deal pour payer sa consommation. Et c'est un engrenage qui fait que petit à petit, on perd notre enfant, il est déscolarisé et il a plus de volonté, il fait plus rien, il fait que fumer, il se lève le matin, il fume. Il est pas dans son état normal, il est pas dynamique, c'est une loque. Mmh. C'est comme ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Et quand il en a pas, il est énervé, il est sous tension, il est comme ça. Et les associations qu'on a contactées, parce que ça fait 3 ans et demi que ça dure et qu'on endure ça. Ça fait 3 ans et demi qu'on dit que il faut faire quelque chose, le désintoxiquer, le prendre en charge psychologiquement, psychiatriquement peut-être. On tombe sur des gens qui nous disent tout le temps, faut que le patient adhère, comme les alcooliques, pareil, exactement pareil. C'est-à-dire que si la personne, elle est malade. Elle se rend pas compte qu'elle est malade. Mais alors, si on attend que la personne soit vraiment tout à fait détruite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des soins sur quelqu'un qui est déjà détruit. Ça ne sert à rien de faire des soins sur des gens qui ont détruit leur vie. Parce qu'ils auront des regrets toute leur vie. Après, ils vont se dire, j'ai loupé ma vie. Et ils retomberont peut-être dans des dépressions, dans des trucs comme ça. Il a 17 ans. Il va avoir bientôt 18 ans. Il est placé il est dans un placement judiciaire parce que on a été obligé de le faire tomber, de le dénoncer pour détention de drogue.
Vous avez très bien fait.
Exactement.
Oui, mais le truc, c'est que derrière, qu'est-ce qu'on fait?
C'est pas normal.
Il y a rien derrière, il y a rien. Là, il y a un placement judiciaire, ça commence à bouger. Mais en 3 ans et demi, on n'a rien fait, on a galéré pour le prendre en charge. Les médecins nous disent, il n'y a pas de place,
en charge pour ça. Laurent, c'est... Votre démonstration et votre témoignage est prenant, effectivement, parce que ici, autour de cette table, on a, je pense, tous étaient confrontés à ce genre de problème. avec de manière plus ou moins proche, croyez-moi Laurent. Mais vous voyez bien que votre fils est tombé dedans. D'abord, quand à 16 ans, à 17 ans, on a toujours des failles, des problèmes dans sa tête, on se cherche. Et il est tombé dedans alors que c'est illégal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc on voit bien
oui,
que...
mais si c'était légalisé, il y aurait beaucoup plus de tentations. Vous pensez aux familles, aux gens fragiles.
Les enfants,
qui boivent de l'alcool ou qui fument, ces gens, ils sont détruits. On n'arrive plus à en faire quoi que ce soit.
Non, Laurent, pour acheter des cigarettes, moi je me rappelle, mon père fumait et nous envoyait acheter des cigarettes quand on était enfant. Et le tabagiste, bravo à lui, bien qu'il nous connaissait, refusait de nous donner des cigarettes. Exactement. Donc en fait, il est interdit en France qu'un enfant, que quelqu'un qui ne soit pas majeur, achète de l'alcool et du tabac. Et donc si demain cette loi passe pour légaliser le cannabis, il en sera de même. Et moi je pense qu'une activité légalisée est beaucoup plus encadrable, qu'on peut faire de la prévention, parce qu'encore une fois, comme nous l'a rappelé Alain, on peut pas faire de la prévention dans des collèges et dans des écoles,
puisque c'est illégal.
Mais si demain, on en fait des préventions sur le tabac dans les écoles,
qu'est-ce qui va se passer avec les trafiquants? Vous savez ce qui va se passer? Parce que l'État va autoriser siphonner. Un THC à combien? Et que vont faire les contrebandiers? Eh ben, eux, ils vont sélectionner, ils vont faire leur petite pharmacie. Ils
mais
vont
pour les cigarettes, monsieur.
Le taux de THC, et vous serez de plus en plus...
Non, mais il faut que ce soit encadré.
Je comprends, mais ça peut être étudié avec des médecins, il y aura des contrôles dans les coffee shops. Or, aujourd'hui, on voit bien que ce qui est vendu, c'est terrible.
C'est de la merde.
Souvent, ça bombarde plus la tête qu'autre chose.
Mais ça reste de la merde.
Oui, non, mais bien sûr, ça reste de la merde. Mais comme la cigarette reste de la merde, après, ce qui fait le poison... C'est le dosage,
tu perds pas le contrôle.
Je ne fume pas, mais quand tu fumes une cigarette, tu perds pas le contrôle.
Si votre fils était tombé dans l'alcool, monsieur, je suis désolée parce qu'en plus c'est votre fils, moi je suis extrêmement mal à l'aise de parler de ça parce que c'est moi je suis maman et je me mets à votre place et c'est extrêmement douloureux et j'ai pas de solution, j'ai été éducatrice et j'ai vu des tas d'enfants tomber et dans le shit et dans l'alcool. Et en fait la problématique reste la même quand il y a une dépendance, que ce soit du cannabis ou de l'alcool, il y a une dépendance et effectivement les mesures de prise en charge demandent un volontariat du malade, ce qui est très rarement le cas, et il y a surtout pas assez de place dans nos cliniques, dans nos hôpitaux pour s'occuper de ce type de dépendance. Donc ça, vous avez raison, mais si c'était l'alcool qui était en vente libre, votre fils, s'il n'a pas sa dose d'alcool, il est violent aussi. C'est ça qui est malheureux.
Laurent, je vous remercie de ce témoignage et j'espère que
courage.
Votre fils va s'en sortir. Bon courage à vous. Elina
Dumont. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, en effet, ça s'est passé à 16 ans. Il faut savoir que le but d'un dealer, et comme je l'ai toujours dit ici, un vrai dealer ne se drogue pas. Je vous parle d'un vrai. Les revendeurs se droguent.
Ils savent la merde qu'ils vendent.
Attends, écoute-moi jusqu'au bout.
Non, c'est le business.
Et en fait, le but d'un dealer, c'est de mettre le plus de saloperies possible pour que tu sois addict. Par exemple, le crack. Moi, à mon époque...
Qui coûte 10 euros à une dose de crack.
Oui, mais moi, je te parle à mon époque. Tu sais bien que j'ai plus d'un demi-siècle. Moi, à mon époque, il n'était pas autant addictif. Aujourd'hui, même si je suis resté pendant 4 ans, ça veut pas... Mais aujourd'hui, ils te mettent des saloperies que là, maintenant, t'en prends 3 cailloux, ça y est. C'est ça, le putain de dealer. Alors que c'est très, très encadré... Là, ils pourront plus mettre de merde dedans.
Je vais revenir sur le même sujet. Protoxyde d'azote, c'est encadré, c'est en vente libre.
Peut-être qu'ils vont l'enlever.
N'importe qui peut l'acheter. Et pourtant, aujourd'hui, nos mômes, il faut voir les mouvements qui sont en train de s'opérer. Là, on parle comme des gens des années 80. C'est-à-dire que le shit, c'est un fléau, c'est machin. Oui, bien sûr. Mais nos gamins, ils sont passés à autre chose, là.
Depuis le Covid, pour certains,
je termine, c'est en vente libre, c'est disponible.
Oui.
Donc, ils ne nous ont pas attendus.
Pas sur les plages de Marseille.
Pour se shooter et se péter la tronche avec d'autres substances licites pour le coup, malheureusement.
Les minots ne boivent que de la bière.
Arrête de m'opposer l'alcool et le shit. Dans les deux cas, c'est une addiction. Dans les deux cas, c'est mauvais.
Je les oppose pas. Au contraire, je dis que c'est pareil. Je dis qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ne boivent plus aujourd'hui, y compris à la plage. Ils ont chacun 2 packs de bière, donc je ne citerai pas la marque, une grande marque, et ils boivent ça au soleil sous 38 degrés, et ça gêne personne. Moi, ça me gêne que des enfants qui ont entre 14 et 17 ans, personne ne branche.
L'alcool est interdite en vente. Oui. Tiens, on revient sur le sujet.
Oui.
La vente d'alcool est interdite
aux mineurs.
Oui,
eh ben, nous demain on vend pourtant, de l'alcool à un mineur.
Et
pourtant, tu fermes, fermeture administrative.
Dans les supermarchés et dans les épiceries de quartier, etc. Ils achètent leurs deux packs de bière et ils vont au bord
tu
de la plage.
Pas, tu peux pas devant des enfants et ne boivent.
Je ne cautionne pas. Je te dis que c'est pareil. Chiffre, en fait, c'est la même chiffre, dépendance.
Le chiffre qui est parlant, c'est de dire qu'aujourd'hui l'État français dépense 570 millions d'euros contre le cannabis. 7 sur 10 euros, 7 vont à la répression. Si tu légalises. Bah, tu inverses le chiffre. Tu mets plus 7 sur la répression, mais puisque tu récupères des taxes et que tu deviens commerce, tu peux mettre à ce moment-là 7 ou 8 sur la prévention et sur le soin. Si tu le commets aujourd'hui, même moi qui ai fumé pendant 20 ans, qui à la fin fumé un paquet par jour, à un moment, je me suis arrêté. Parce que, des cigarettes. Mais si tu veux aujourd'hui, l'État, même le non-fumeur aujourd'hui, il participe via la sécurité sociale, à soigner ceux qui ne fument pas. On est d'accord là, avec les impôts, on finance aussi la police qui participe à la répression. Mais les trafics d'année en année sont plus importants et ça génère de plus en plus de chiffres d'affaires, le cannabis. Donc à un moment, il faut inverser le paradis puisqu'on n'arrive pas à le faire baisser.
Et pareil pour l'alcool, toutes les maladies qui sont liées à l'alcool.
On peut essayer. Pourquoi est-ce qu'on fait pas un test? Il y a des États aux États, tous les États américains ne sont pas passés à la légalisation du cannabis.
Regarde,
certains l'ont fait, donc on peut faire peut-être une période test.
Laurent n'arrive pas à faire prendre en charge son fils médicalement.
La Suisse a une formule intermédiaire qui est tu peux l'acheter pour de l'encens, tu peux l'acheter pour élever tes plantes chez toi.
Oui.
Bon, après que tu le fumes ou pas, en gros, l'État ferme un peu les yeux, ils te le vendent, mais ferme les yeux.
Ce qu'on appelle thérapeutique en Suisse.
Pourquoi être hypocrite? Laurent vient te dire là que son fils est tombé, il était dans un milieu fermé, en sport, études, natation. Ce petit était voué à une carrière sportive, peut-être de haut niveau. Et là, il est tombé en milieu fermé, préservé, voilà, assez chic, entre guillemets.
Malgré ces nombreux exemples, tu es pour...
Oui, parce que c'est pas encadré. Et aujourd'hui, ce monsieur peine à faire prendre en charge médicalement son enfant. Et c'est là où je suis d'accord avec Alain, où en fait... Tu inverses et les 7 euros vont dans la prévention et on aura des soins.
On peut essayer.
C'est des addictions dont il est difficile de s'en sortir.
Ouais, mais le cannabis,
la cocaïne, le crack.
L'alcool.
Une fois que tu as mis le pif dedans
l'alcool.
Ou la bouche dans ce joint, tu as du mal à t'en sortir.
Mais l'alcool Stéphane, aussi attends. Dedans.
Mais je Stéphane. Peux te mettre mais ce Écoute. Que tu veux si ça te fait plaisir. Non, je te le mets. Bien sûr que c'est une addiction. Je te parle des addictions avec un S. Tu vois, moi, je suis pas SOS racisme ou SOS addiction. Je mets un S, moi. Et toutes les addictions sont mauvaises.
Oui.
Il y a le plaisir.
Et certaines sont légales,
et
certaines
l'addiction.
Ne sont pas légales.
Voilà. Mais
c'est
pas légal.
C'est pas l'addiction, c'est le produit.
Moi, je vais te dire un truc. Moi, ce qui me pèse le plus, et que ce soit, mais partout en France, même, parce qu'on n'en parle pas tout le temps en grande gueule, c'est normal. Mais tu peux regarder dans la presse. Moi, je n'en peux plus des balles perdues de gamins de 11 ans, 10 ans. Bah, toi, tu dois en savoir autant que moi. Je n'en peux plus. Tu verrais le nombre de mamans qui se battent pour dire à leurs gamins, venez. Mais c'est, et puis tu sais, quand ils font comme ils disent à Marseille, bon, à Bobigny, on dit pas ça, mais ils font des barbecues.
Il y a tellement de comptes aujourd'hui qu'il y a.
Mais ça n'existera
vraiment,
plus.
Je vous invite à vous poser la question
et
suivante.
C'est quoi?
1 milliard 200 millions,
mais
c'est le chiffre d'affaires. Imagine, tu enlèves tout cet argent de cette économie souterraine.
Bah, tu l'enlèves quelque part si tu légalises.
C'est comme la
supprime. Il restera forcément des trafiquants.
Il va rester des miettes.
Il va en rester, évidemment. On posera la question tout à l'heure à David Lebars. Il sera face au GG. C'est le président du syndicat. Des commissaires de police, il sera dans les grandes gueules et nous lui demanderons justement s'il est pour ou contre cette légalisation. Il sera à midi moins 20 avec nous, avec les grandes gueules. Tiens, dans un instant, le journal du off, il y a une affaire qu'il va falloir suivre, c'est l'affaire État EDF. On va vous parler de l'EDF qui réclame 8 milliards à l'État parce que l'État a gelé les tarifs de l'électricité. Il aimerait bien récupérer son argent. Mais d'abord, le cannabis, on légalise, oui ou non? On a posé la question sur les réseaux sociaux.
Ça va être partagé, tu vois.
C'est très partagé, regardez. Oui, 50,3, non, ah ouais. 49,7.
C'est bien les gens.
Mais ce qui mérite un vrai débat aujourd'hui qui fracture la société. Allez, à tout de suite avec les grandes gueules.